Bonsoir. La dernière conférence de presse du Premier ministre continue à susciter des réactions dans l'opinion. La dernière est celle du courant rénovateur de l'AMP qui pense qu'Adolphe Mousito n'a pas présenté un bilan objectif de sa gestion. Sur quels éléments le courant rénovateur de l'AMP se base-t-il pour critiquer le bilan présenté par le Premier ministre? Trois invités participent à ce dialogue entre Congolais. Il s'agit de Patrick Mouyaya, conseiller principal du Premier ministre, chargé de la communication et presse. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Alain.
François Ntekouyé, analyste politique et expert en économie et environnement, également dans ce studio. Bonsoir François.
Bonsoir.
Gustave Omba, député national et initiateur du courant rénovateur de l'AMP, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes également très nombreux à réagir, chers auditeurs. C'est le cas de Berthe Mouchia de Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, qui dit comment convaincre une Chinoise qui met 3 à 4 heures pour aller de Kinshasa, dans la périphérie de Kinshasa, à la Gombe, au centre-ville, que sa vie s'est améliorée alors qu'il y a 10 ans, elle mettait moins de temps. Pierrot Kayumba de Doma en Nord Kivu, depuis les élections de 2006, les bilans de tous les dirigeants sont toujours positifs, mais le niveau de vie réel du Congolais ne fait que se dégrader, et le comble, c'est qu'aucun dirigeant ne se préoccupe de la différence entre l'appréciation du peuple et celle des dirigeants. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Un groupe de députés, membres du courant rénovateur de l'Alliance de la majorité présidentielle AMP, a appelé vendredi dernier le gouvernement congolais à lutter contre la médiocrité. Il réagissait aux propos du Premier ministre Adolphe Mousito lors de sa conférence de presse tenue le week-end dernier. Selon le député Albert Fabrice Puella, leader de ce courant, je cite, « Les paysans congolais n'ont rien à faire de tous les chiffres présentés par le chef du gouvernement congolais et qu'il aura raté une occasion pour faire un vrai bilan. » Mais quelles sont les grandes lignes du bilan présenté par le Premier ministre Adolphe Mousito lors de sa conférence de presse? Tentative de réponse avec vous, Samuel Kachak.
Sur le plan économique, le Premier ministre s'appuie sur les chiffres. À l'indépendance, le revenu du Congolais était de 480 $, alors que l'an dernier, 49 ans après, il est de 80 $. Pour ramener le pays au niveau de 1960, le Premier ministre rassure que le gouvernement travaille pour disposer d'un taux de croissance de la production nationale de 10% par an et un taux de croissance de la population de 3%. Selon le chef du gouvernement congolais, c'est en principe en 2020 que le pays pourrait revenir au niveau de 1960. Et en 2040, avec un taux de croissance réel de 10%, la RDC pourrait largement dépasser le niveau de vie de quelques pays africains sur le plan du produit intérieur brut. Parlant des salaires, le Premier ministre a indiqué que la masse salariale des agents de l'État est toujours en nette progression et représente 40% en moyenne du budget de l'État. Les efforts dans la même proportion ont été accomplis pour enseignants avec la suppression des disparités entre les provinces et la ville de Kinshasa, alors que pour les médecins et les magistrats, le gouvernement travaille en profondeur pour améliorer leur situation. Selon Adolphe Mousito, si en 2006, le médecin touchait $150, ce salaire a atteint $700 en 2009. Quant aux magistrats, dans la même période, son salaire est passé de $704 à $1600 en 2009.
Réagissant aux propos du leader du courant rénovateur de l'AMP, le secrétaire exécutif de l'AMP, Louis Kouyagialo, pense que les députés de ce courant rénovateur sont libres d'exprimer leur point de vue. Toutefois, il a estimé que le Premier ministre a été honnête en disant la vérité à la population. Nous accueillons dans ce studio les députés nationaux Albert Omba. Bonsoir Albert.
Gustave Omba.
Gustave Omba, pardon. Bonsoir Gustave.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que le courant rénovateur reproche au Premier ministre? Sur quels éléments vous vous êtes basé pour dresser toutes ces critiques?
Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par vous remercier pour vos opportunités et l'intérêt que vous avez accordé à notre courant rénovateur qui suppose qu'aujourd'hui, nous avons la mission au regard de choix que la population nous a apportés de faire l'évaluation sur base de ce que nous constatons sur terrain, parce que nous sommes proches de la population, nous avons un contrat social avec le peuple. Et quand nous avons suivi le Premier ministre avec beaucoup d'intérêt, moi je considère un homme intelligent, parce qu'il maîtrise bien les chiffres, et toutes les fois que je l'ai suivi, j'étais en face d'un homme qui était en train de présenter sa maîtrise en finances publiques. Et je me demande s'il est un extraterrestre ou qu'il a le temps de suivre de près les images que quelques chaînes de télévision montrent chaque jour au quotidien, entre autres Linda La Facile et tant d'autres télévisions. Je me demande également s'il a, en tant que chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, le rapport de l'état des lieux de chaque province, pour que chaque province fasse la centralisation de ce qu'ils ont comme information des différentes entités, pour qu'ils s'approchent du peuple, nous disons que le Congo n'avait jamais atteint cette misère. Vous savez, ça valait mieux le Zaïre que le Congo.
Pourquoi ?
Parce qu'à l'époque du Zaïre, il y avait des contrées où tu pouvais rester dans ton village. L'exode rural n'était pas à ce point. Le sel pouvait arriver. À l'époque du Zaïre, on ne pouvait jamais trouver une femme qui est en train d'être opérée en pleine chirurgie, sans anesthésie. Mais nous avons vécu ça, avec tellement de preuves. C'est pour dire que le Premier ministre, il a beaucoup de volonté. Et que je trouve en lui un homme qui se comporte en extraterrestre, comme je l'ai dit. Le chiffre par rapport à ce que vit le peuple qui nous a donné ce pouvoir, ça ne correspond pas. Ce chiffre, ça sert, peut-être on va sentir l'évolution objective, je voulais dire, dans leur quotidien, parce que eux, ils sont en train d'agrandir leur charroi, ils sont en train de se construire des belles voitures, de se construire de belles maisons, de belles villas, des immeubles. Mais le peuple qui nous a donné ces mandats, quand vous faites une évaluation aujourd'hui avec le micro-baladeur de la Radio Capi par rapport à ce qui s'est dit sur l'étendue de la République, c'est grave.
Alors, avant de donner la parole à Patrick Mouyaya, vous voulez dire que le Premier ministre ne maîtrise pas les réalités de terrain.
Il maîtrise les réalités des chiffres, il ne maîtrise pas les réalités du terrain. Donc, les réalités du terrain, c'est vraiment le contraire de tous les beaux chiffres et ces beaux chiffres qui servent un groupe de gens, au détriment de notre population qui nous a donné ce mandat.
Voilà, Patrick Mouyaya, conseiller principal du Premier ministre chargé de la communication et presse. Vous venez de suivre Gustave Omba. Pour lui, le Premier ministre vit sur Mars, hein, il ne connaît pas les réalités de terrain, il ne les maîtrise pas. Par contre, ce sont vos charrois automobiles qui s'agrandissent au détriment de la population.
C'est son avis, je le respecte, mais en premier, je voudrais apporter un léger rectificatif tout à l'heure en suivant le reportage de Sam Kacha, qui a parlé l'an dernier, c'était pas 80$, c'était plutôt 200$ selon les chiffres qui ont été présentés par le Premier ministre. Je voudrais aussi apporter la précision que le Premier ministre, en fait, n'était pas une occasion pour faire les bilans de tout ce qu'il a déjà fait, c'était une émission où le Premier ministre s'est exprimé, il a accordé une interview, comme ça se fait dans d'autres pays par ailleurs, aux journalistes, à un nombre de journalistes, et cette interview-là a été interprétée par beaucoup, notamment le député Pidimono, comme étant une forme de bilan. Quant à Étienne, les réactions qui ont été suscitées sont celles qui étaient attendues tout naturellement. Mais je m'insurge contre le fait que Gustave Pidimono pense que le Premier ministre vit sur Mars. Le Premier ministre a s'exprimé le week-end passé pour une première fois après avoir passé plus d'une année et 3 mois.
Et pourquoi a-t-il choisi de s'exprimer maintenant ?
Évidemment, puisque pour le Premier ministre, au départ, il est arrivé au pouvoir dans un contexte qui était celui-là. Vous vous souvenez que Kunda était aux portes du Gabon. Et le Premier ministre a dit que en salle d'urgence, les médecins ne parlent pas. Il était donc question pour lui de mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour qu'on intervienne, pour que l'intervention chirurgicale s'efface sur le malade. Et maintenant que le Premier ministre constate que le malade, l'état de santé du malade est notamment en train de s'améliorer, il a estimé qu'il pouvait communiquer. La stratégie, elle est la suite des celles que prenait le patriarche Antoine Gizenga. On ne communique pas pour raconter, on ne communique pas pour dire. Il faut communiquer pour dire la vérité, pour dire ce qui s'est fait. Et c'est l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre. Il a dit des choses qui étaient d'autant plus vraies que pour appuyer son argumentaire, il a recouru aux chiffres. Les chiffres sont dans les cosmos, comme il a bien dit. Le chiffre que le Premier ministre a avancé, ce sont des chiffres qui sont vérifiables, qui viennent des structures du PNUD, de la Banque mondiale, et même des données sur le budget que l'honorable Gustave Bidimo nous maîtrise bien.
Mais Patrick Mouyaya, est-ce que ces chiffres, le Congolais les ressent vraiment dans son assiette, au quotidien?
Moi, je m'insurge contre tous ceux qui pensent que le Congolais n'ont pas le droit, ou le Congolais n'ont pas la capacité de dire le chiffre. Le matin, avant de sortir de votre maison, vous laissez peut-être 5000 francs à votre femme, vous achetez du pain, vous achetez de l'huile, vous achetez du riz. C'est de la quantification. C'est de la quantification. La culture politique nous a habitués à discuter, à dire des choses de manière verbale sans apporter le soubassement de ce que nous disons. Et quand le Premier ministre dit, dans la suite de ce qu'avait dit le président de la République à l'Assemblée nationale, et les Congos s'est porté mieux qu'hier, il était dans le devoir de le prouver. Et Gustave Bidimo le sait, et beaucoup d'analystes le savent aussi, qu'il y a des agrégats qui permettent d'évaluer l'évolution d'une nation, les PIB, les budgets, la population, et toutes les données qui ont été avancées par le Premier ministre. Quand on dit que le Premier ministre a vit sur Mars, quand il parle de chiffres, c'est d'autant plus étonnant que pour ces hommes qui, matin et soir, payent le transport ou payent le ticket, il ne faudrait pas ramener les Congolais si bas. Aujourd'hui, l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre est un exercice auquel nous devons tous nous livrer. Les honorables qui sont élus dans les circonscriptions connaissent les besoins de leurs circonscriptions et ces besoins se traduisent dans des chiffres, Alain Hiron.
Voilà, François Nsekou est analyste politique et expert en économie et en environnement. Pour les députés Gustave Omba, le Premier ministre vit sur Mars. Pour Patrick Mouyaya, conseiller du Premier ministre, c'était un exercice normal.
Oui, moi je vais être au milieu des deux pour vous dire que le Premier ministre, effectivement, a fait, je dirais, un discours sur l'état de la nation en chiffres. Mais ce discours sur l'état de la nation en chiffres est désolant, parce que j'ai les chiffres devant moi. Il nous dit effectivement qu'il y a une évolution du PIB par habitant qui est passé de 2000 à 80 et aujourd'hui à $200. Moi, je prends un calcul simple. $200 c'est par an, vous le divisez par 12 mois, il vous donne $16.60. Vous le divisez par jour, il vous donne 0.55. C'est qui est équivalent à 500 francs congolais. Quel Congolais peut vivre avec 500 francs? Mais ces chiffres, tout en résumant la situation générale de l'économie, bien évidemment ne traduisent pas les défis quotidiens de la population. Ce qui traduit par contre les défis quotidiens de la population, c'est les salaires que chaque citoyen perçoit. Et là, le Premier ministre nous a donné des informations qui ne sont pas non plus encourageantes, parce qu'il nous dit que le huissier a 35 000 francs. Et lui, ce qu'il a trouvé de bon à faire, c'est de niveler ses salaires bas au niveau de toute la République. Donc au lieu, à mon avis, d'élever le niveau des richesses des gens, on a égalisé la pauvreté. Parce que les huissiers de l'intérieur touchent la même chose que les huissiers de Kinshasa. Et dans ce tableau, il montre clairement qu'on ne tient pas compte ni des logements, ni des frais de transport. Quelqu'un qui est à Routchour ou dans mon village pour aller au travail, il ne prend pas le transport. Par contre, quelqu'un qui a Kinshasa pour venir en ville, il doit prendre les transports. Mais le gouvernement ne les paye pas. Donc, de ce point de vue-là, on se rend compte que le Premier ministre, tout en nous ayant dit la vérité, il y a une vérité qui nous cache. Il devait nous donner la disparité qui existe entre les revenus des politiciens et les revenus des citoyens. Parce que les politiques congolais sont très à l'aise.
Là, vous parlez du train de vie des politiciens.
Tout à fait. Les salaires, les revenus déjà, les émoluments, que ce soit des députés nationaux ou provinciaux, que ce soit des ministres nationaux ou provinciaux, on se rend compte que ces personnes-là, sans pour autant dire qu'ils sont à l'abri des besoins, ils sont dans une situation de façon, à mon avis, très très différente du citoyen commun. Parce que un député aujourd'hui, il a plus de $4000. Un ministre, pareil. Mais comment comparer $4000 que reçoit un ministre ou un député avec 35 000 francs qui ne représentent même pas $50? Donc j'estime que ce que le gouvernement devrait faire, c'est de réduire ces disparités entre les mêmes personnes. Nous sommes tous des humains. Nous tous nous mangeons, nous tous nous déplaçons, nous tous nous dormons. Et ce n'est pas normal d'accepter que certaines personnes dans un État vivent dans une situation bien meilleure que les autres et que l'on trouve normal que ce sont les agents de l'État restent les mêmes. Et là, j'interpelle les députés qui sont en face de nous parce qu'ils n'ont fourni jusque-là aucun effort en tant qu'autorité budgétaire pour que la situation de la population soit améliorée.
Mais François Nzekouye, finalement, dans le bilan, entre guillemets, du Premier ministre, n'y avait-il pas de positif?
Ce qui est positif, à mon avis, c'est un effort de mobilisation des recettes internes. Les gouvernements peuvent le prendre en tant que positif, une évolution aussi des recettes extérieures, cela veut dire que l'État congolais devient plus fréquentable. Mais moi, je le vois aussi malheureusement d'un point de vue négatif, parce que nous allons de plus en plus dans une dépendance extérieure. Le Congo ne peut plus faire un budget sans tenir compte de l'extérieur, et pour 2010, la part du budget venant de l'extérieur est de 55%, donc plus fort que la part de mobilisation interne.
Gustave Omba, finalement, n'êtes-vous pas de ceux qui voient tout en noir?
Gustave Omba. Écoutez, je pense que avant qu'on ne soit ici, avant qu'on prenne l'initiative de lancer enfin un courant renovateur au sein de la majorité, nous avons pensé à faire une observation objective. C'est de l'objectivité qui nous pousse aujourd'hui à avoir ce son de cloche que la plupart de nos collègues considèrent au niveau de la famille, me traite aussi quelque part comme des opposants. Mais je crois que au cours d'un mandat, après qu'on ait fait le mi-parcours, le réalisme exige assez qu'on puisse arrêter un instant faire l'évaluation. Le Congo a eu la chance, ou les Congolais ont eu la chance de faire le choix objectif pour la toute première fois de leurs dirigeants. Je vous dirai ici, en 2006, les Congolais vivaient misérablement mieux qu'à ce jour. Je parle en tant qu'un homme politique et un représentant du peuple. Je ne vais pas ici parler parce que j'ai besoin que, comme vient de dire M. François, que mes émoluments puissent aller, comme la plupart des gens disent, nous gagnons 6 000, d'autres nous donnent 12 000, les autres accordent encore 15 000. Mais je me mets plutôt, en prenant cette position, du côté de la population, parce que toutes ces années, cette année, c'est l'année jubilaire, le Congo va avoir 50 ans. Il y a des gens qui me disent, oh ben Gustave, on ne fait pas la politique comme ça, on fait la politique avec la tête. Et pourtant, vous savez que c'est dans la tête qu'il y a l'ensemble de fonctionnement de corps humain, la raison, la conscience. Mais aujourd'hui, nous avions voulu qu'au moins un peu de cœur pour que nous puissions avoir le sens de réflexion, des compassions vis-à-vis de notre peuple. C'est pour vous dire que nous faisons des analyses objectives et c'est sur base de cette objectivité que nous considérons que de tout ce que le Premier ministre a dit, c'est des beaux chiffres qui peuvent avoir de l'impact dans leur revenu quotidien au niveau, le haut rang, dont moi-même je fais partie, mais le peuple ne s'y retrouve pas.
Ça, vous l'avez déjà dit, Gustave Omba, soyons plus concrets. Le Premier ministre a parlé, a souligné l'évolution dans le budget de 2006 à ce jour. Il y a eu des évolutions. Vous êtes l'autorité budgétaire. Qu'est-ce que vous avez fait comme effort pour aider le Premier ministre à avoir une enveloppe plus grande pour soulager les Congolais?
Il nous est arrivé pour la toute première fois d'être en contradiction avec le gouvernement de notre majorité, pourtant c'est nous qui menons le jeu politique au sein de l'Assemblée nationale, et c'était autour de quoi? Des crédits additionnels. Le gouvernement dit non, il n'y aura rien qui va s'ajouter, vous devez garder le budget tel que nous vous avons envoyé. Et pourtant, le budget, c'est l'État, c'est une affaire parlementaire. Quand nous envoie le budget, c'est nous qui donnons au gouvernement en faisant des recherches pour se dire qu'ici, il y a encore lieu de mobiliser là-bas ou est démobilisé ici pour essayer d'améliorer les conditions. Le besoin que l'État a de pouvoir couvrir ses charges. Nous sommes arrivés à une contradiction flagrante jusqu'à la dernière minute et qui nous a même ramené à faire que le chef de l'État puisse renvoyer le budget pour une seconde lecture. Parce que le chef de l'État a présenté un programme pour la nouvelle année en disant que l'année 2010 c'est l'année du social. Le gouvernement de notre majorité à son tour dit qu'il n'y aura rien qui va s'ajouter parce que nous avons des termes X qu'il faut respecter au regard des engagements que nous avons avec l'extérieur. Ça veut dire qu'il piège le chef. La population continue à croire à celui avec qui il a un contrat social, le chef de l'État et les députés, mais à ce moment-là, durant 2010, il n'y aura rien qui va arriver sur le panier des Congolais. Qui sera jugé?
Alors, très brièvement, avant de donner la parole à Patrick Mouyaya, deux auditeurs nous écrivent, l'un de Kinshasa, l'autre de Goma. Georges de Kinshasa dit ceci, l'ANP veut endormir le peuple congolais avec son courant rénovateur, faisant croire à un semblant de démocratie en son sein. Les Congolais veulent des élections à tous les niveaux, au plus vite, pour qu'ils corrigent l'erreur de 2006. Maître Juvenal Mounoubo Moubi de Goma en Nord-Kivu, depuis le début de l'année 2010, l'on remarque une forte agitation tant dans la majorité que dans l'opposition. Que cache cette fuite en avant? Je pense que le seul qui est en mesure de faire un bilan objectif de la gestion du gouvernement, c'est le peuple congolais lui-même. Très brièvement, Gustave Omba.
Moi, je pense que je dois concéder à celui qui parle de la distraction. Nous avons eu le mandat de pouvoir parler au nom du peuple. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je n'appartiens pas à ma majorité. J'assume, et parce que j'ai participé à toute la messe, ou toutes les messes, tant les messes noires que les messes blanches. Aujourd'hui, je dis, la conscience oblige, un homme d'État, c'est lui qui sait s'arrêter un instant sur l'évaluation. C'est sur notre cette évaluation que nous avons pris le courage, malgré les menaces, malgré les mépris, malgré tout ce que tout le monde peut dire, mais nous disons, nous allons ramener notre majorité à recadrer les choses pour que nous soyons une majorité positive pour le bien-être du peuple. Voilà.
Patrick Mouyaya, vous avez suivi François Nzekouye qui revient sur les chiffres qu'a présenté le Premier ministre. Il parle d'un discours désolant, vous allez y réagir. Il y a en plus deux autres auditeurs de l'Est, Jonas Nounou de Goma en Nord-Kivu, qui dit « Je pense que le courant rénovateur a raison de dire que le Premier ministre doit présenter un bilan objectif de sa gestion. La culture de banaliser ce que veut le peuple devrait cesser dans le chef des fanatiques de l'ANP qui ne se soucient que de leurs intérêts. Maître Juvenal de Kindo Maniema, pour quelle raison l'ANP ne veut pas revoir ses méthodes de travail devant des critiques sévères et honnêtes de l'opposition et de ce courant rénovateur? Que faut-il pour que l'ANP comprenne quelque chose, Patrick Mouyaya?
D'abord, à ce niveau du débat, j'aimerais apporter quelques précisions. L'exercice auquel s'est livré le Premier ministre le week-end passé consistait à présenter plus ou moins le Congo, ce que nous sommes, vous le savez mieux que moi, certainement, que les présents et les restes du passé. D'où venons-nous? Quittant les années 60, le Premier ministre l'a bien montré. Le PIB était à 450. Les années 60 jusqu'à aujourd'hui, les PIB n'a fait que décroître. Pour cause, les différentes instabilités politiques que nous avons connues ici, les décisions économiques mal exécutées, si par ailleurs elles étaient bonnes, conséquence, il n'y a pas eu de création de la richesse. Mais entre-temps, il y a eu une courbe qui n'arrête pas de croître. L'évolution de la population. Nous étions à 12 millions, nous sommes à près de 70 millions aujourd'hui. La richesse a doublé, en réalité, en 50 ans d'histoire, mais la population a continué. Vous ne pouvez pas demander au Premier ministre ou au Président de la République de répondre aux besoins de 70 millions d'habitants, alors que le budget dont il dispose ne représente même pas ce qu'il lui faut pour organiser ou pour réorganiser l'armée. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça le plus important, c'est que les choses sont en train de changer. La démonstration a été faite par les premiers ministres en partant de 2001. De 2001, les budgets qui étaient en 80 dollars en 2000 a commencé à croître. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons les pays a pratiquement triplé les revenus par habitant. Ce qui traduit une forme de richesse. Mais le premier ministre a dit que nous sommes dans le trou. Nous avons évolué, mais nous sommes dans les trous. Il nous faut des réformes. Il nous faut améliorer le climat des affaires. Il nous faut entre-temps, réhabiliter les outils de production ou en défaut en recréer, il faudrait imaginer des partenariats, les Chinois, et tout le reste, créer des montages pour permettre au gouvernement de se doter des moyens pour répondre aux besoins légitimes de sa population.
Mais Patrick Mouyaya, François Nzekouye a parlé du train des vies, hein, des ministres, des députés. On se souvient qu'au mois de juin de l'année passée,
je ne comprends pas l'idée
du président de la République à reprocher au Premier ministre dans une lettre, hein, sa mauvaise gestion.
Je veux vous surprendre, Alain. Je peux vous dire que ça fait 3-4 mois, vous pouvez le vérifier, que les ministres n'ont pas touché leur salaire. Les frais de fonctionnement, ils n'ont pas perçu. Vérifiez. Mais ça fait c'est tout le monde qui les conçoit. Et vous parlez de la lettre du mois de juin, vous l'avez mal interprétée. C'est justement, l'honorable Bidimon a concédé tout à l'heure à la distraction. Ça fait partie de la distraction. Puisque l'objectif ultime pour le président de la République et pour le premier ministre, c'est de réussir à améliorer les conditions des conditions de vie des populations.
Mais en plus, on a signalé au Parlement, notamment, des dépassements budgétaires, le budget a été exécuté à très peu près.
Allons à la quantification, le Premier ministre l'a dit, c'est qu'ils disent qu'il y a eu des dépassements budgétaires, qui nous amènent les chiffres, il y a eu des dépassements dans quel secteur et pourquoi. Aujourd'hui, l'urgence du gouvernement Mouzito était prioritairement de mettre fin à la situation de l'insécurité à l'Est, accélérer les 5 chantiers, stabiliser les cadres macroéconomiques et améliorer les conditions sociales des populations. Il faut comprendre que le social de la population, qui suppose l'accès aux soins de santé, qui suppose l'école, le transport, l'accès à un eau et à l'électricité, ce sont des problèmes qui sont pris à bras le corps. Mais que produisons-nous en propre, 6 milliards de dollars aujourd'hui, pour un pays de 70 millions d'habitants? Qu'est-ce que ça représente pour répondre à tous ces besoins? Sans compter les faits que l'État dispose d'à peu près 1 million d'agents, tout personnel compris, administration publique, opérateurs, ministères, députés, assemblées provinciales, l'Assemblée nationale.
C'est près de 400 conseillers du Premier ministre.
Écoutez, c'est statutaire, l'honorable Abidimone qui est à côté de moi peut vous le dire. C'est statutaire, il est prévu un nombre pour le cabinet du Premier ministre, pour le cabinet de l'Assemblée nationale, pour le cabinet du Président de la République. Ceux qui font les budgets, ce sont les députés. Je prends un exemple simple, Alain Hérong, en sortant de votre maison tout le matin, vous dites, madame, prenez 6000 francs, 7000 francs pour préparer. En revenant le soir, vous ne pouvez pas demander à votre femme de vous servir un buffet, alors que vous ne lui avez donné que ce qu'il lui faut pour acheter du pioli et du foufou. Il faut comprendre que le Premier ministre, le président de la République, tous les gouvernements, a l'ambition d'améliorer les quotidiens de population, mais on ne peut soutenir une telle ambition qu'avec de moyens. Et nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous nous contentons à répartir ce que nous avons. Une dernière précision, tout à l'heure, Laurent Abidimone à côté de moi était député pendant la transition. Les salaires des bases à l'époque, du huissier, c'est à peu près $2. 800 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 35 000 francs. François Ndékouya a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de logement et tout ce qui compose les salaires. Le gouvernement a la volonté de le payer. Mais quels sont les moyens dont nous disposons? Le Premier ministre a fait un accroissement substantiel sur les salaires de base, sur base duquel on peut calculer les retraites, plutôt que de privilégier d'autres reprises qui pourront être compensées au fur et à mesure que nous serons en capacité de produire et de soutenir les ambitions légitimes du peuple.
François Ndékouya, je vous ai vu plusieurs fois hocher la tête de façon un peu dubitative. Quelques auditeurs encore. Brigitte Mundabi de Kinshasa. Le Premier ministre veut vraiment faire croire aux Congolais qu'ils vivent mieux alors qu'ils meurent de faim et de malnutrition. Jean de Dieu Mawala Makanda de Kinshasa encore. Avec cette conférence de presse, les observations et conclusions du Premier ministre, je me rends compte qu'il faut vraiment qu'on organise les élections pour permettre aux Congolais de corriger l'erreur de 2006, car avec les dirigeants actuels, il n'y a aucune lueur d'espoir. François Ndékouya.
Oui, en fait, comme vous l'avez dit, vous m'avez vu hocher la tête dans un sens comme dans un autre. En fait, j'ai l'impression que ce soit mon ami Patrick Muyaya ou l'honorable député Gustave Omba Bindimono, sont en train de nous faire voir ici qu'ils sont des spectateurs. Quand on nous dit, voilà, vous demandez à quelqu'un de pouvoir payer les salaires, mais quels moyens on lui donne? Qui doit mobiliser les moyens pour l'État congolais? N'est-ce pas? Et l'exécutif et les législatifs. Mais vous vous rendez compte que pendant toutes ces années, il y a des grèves dans les institutions qui doivent mobiliser les recettes. La DGRAP, la DGI, les cadastres miniers, c'est des mouvements de grève perpétuelle. Comment voulez-vous arriver à mobiliser les ressources? J'ai suivi il y a 2 mois le ministre de la Justice à la clôture d'un séminaire sur la lutte contre la corruption nous dire qu'il y a 10 milliards de dollars qui s'échappent chaque année dans le cadre des marchés publics et des fournitures. Quels sont les mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir appréhender ces personnes et réduire les poches par lesquelles la corruption est en train de faire échapper les recettes de l'État? Je crois que il faudrait que le gouvernement comprenne qu'il n'est pas un spectateur, qu'il est un acteur et qu'il doit prendre des mesures conséquentes pour qu'effectivement il y ait amélioration des recettes de l'État. Aujourd'hui, oui, depuis encore une fois un mois ou quelques jours d'ailleurs, il y a une entreprise congolaise, plutôt une entreprise minière qui est basée au Congo, qui est allée en arbitrage contre l'État congolais et la GECAMINE.
Vous voulez améliorer le climat des affaires, mais vous ne voulez pas négocier avec les entreprises avec lesquelles vous êtes en difficulté, avec les risques d'être pénalisé en arbitrage pour payer encore des milliards et alourdir la dette du Congo. Moi, je dis, il y a des attitudes qui sont contradictoires au niveau du gouvernement. D'une part, ils se plaignent de ne pas avoir les moyens, et d'autre part, ils sont en train de se comporter comme s'ils en avaient beaucoup et ils sont prêts à en jeter à travers la fenêtre. Donc, vous remarquez aussi, comme je venais de le dire, que au niveau de notre pays, le Premier ministre l'a dit qu'il y a un accroissement des banques dans notre pays. Mais on se demande, ces banques-là appartiennent à qui? La richesse de notre Congo est en train d'être gérée par des étrangers. Toutes les banques qui existent au Congo, on ne peut pas m'en citer une qui appartient aux Congolais. Quels efforts le gouvernement, à travers le budget d'investissement, fait-il pour qu'il y ait des banques de développement pour financer la création des richesses au Congo? Aucune. Donc, on se plaint de ne pas avoir de moyens, on ne fait pas des mobilisations suffisantes de richesses, et quand on en fait, on ne justifie pas. La taxe sur la vignette, on la paye. Donc, encore, j'ai suivi sur votre radio qu'à partir de demain ou après-demain, on va commencer à faire une mobilisation contraignante de ceux qui n'ont pas payé pour 2007-2006. Aujourd'hui, ces recettes sont perçues. Où vont-elles? Quand vous voyagez à travers les pays ou à l'extérieur par voie aérienne, nous payons ce qu'on appelle couramment les GoPass, 10 dollars pour les vols internes et 50 dollars pour les vols internationaux. Mais dans quel état sont nos aéroports? On a commencé à payer ces fameux GoPass, ça fait déjà plus de 6 mois. On ne communique pas pour nous dire où vont les recettes. On nous dit effectivement combien on a mobilisé, mais on ne nous dit pas de quelle manière on dépense. Quand le gouvernement va à l'Assemblée nationale pour présenter son budget, il dit voilà, nous allons répartir l'argent de telle ou telle manière. Mais à la fin de l'année budgétaire, ils deviennent comme des bégayeurs pour nous justifier de quelle manière l'argent a été dépensé. Donc, vous vous rendez compte quelque part que ce que moi j'appelle, il y a une conspiration des politiques contre la population. Les politiciens s'arrangent tous à tous les niveaux pour être très bien payés. En même temps, la population coupée dans la misère. Quand Patrick nous dit que les ministres ne sont pas payés et les chefs de fonctionnement ne sont pas payés, nous devons nous demander maintenant comment les ministres vont au travail. Ils vont à la station, on leur donne du carburant gratuitement, ils vont à la vie d'alimentation, on leur donne à manger gratuitement. Comment doivent-ils nous utiliser? C'est ça là qui est la question que je me pose. Doivent-ils nous dire maintenant d'où viennent les moyens qui leur permettent de continuer à vivre dès lors qu'ils ne sont pas payés?
Voilà, il y a beaucoup de réactions d'auditeurs. Nous allons prendre une série à laquelle je vais vous demander de réagir. Kalinga Roger de Bruxelles en Belgique, les chiffres présentés par le Premier ministre congolais ne reflètent pas la réalité et présentent une série de manques de cohérence. On se rend compte que le pouvoir d'achat d'un Congolais moyen a énormément baissé de plus de 5 fois, contrairement à ce que le Premier ministre Mozito veut nous faire croire. Pour un politicien de formation économique, cela est très grave. Rick Mpande de Dikasio Katanga, le gouvernement doit fournir des efforts pour améliorer les salaires des fonctionnaires et éviter des comparaisons avec les années antérieures. On ne peut pas se limiter à brandir la valeur faciale des salaires pour parler d'amélioration. Il faut jouer sur la valeur réelle. Emina Basimbe de Mbandaka, l'Équateur, pour moi, le bilan de la gestion du gouvernement Mozito est largement négatif sur le plan social. On constate l'affaiblissement de l'autorité de l'État suite aux mauvaises conditions salariales de la population. Sur le plan sécuritaire, on enregistre une insécurité grandissante à l'est du pays et au nord de l'Équateur. Leonard Mulunda de Cape Town, en Afrique du Sud, la conférence de presse du Premier ministre n'a pas convaincu la population sur la manière dont le gouvernement congolais est en train de prévenir l'avenir du pays dans tous les secteurs du pays. J'estime que le courant rénovateur de l'AMP a raison d'être pessimiste sur le plan d'action d'Adolfo Mozito. Réaction à Gustavo Mba.
Mais je crois que les détenteurs du pouvoir réel, vous avez suivi, c'est 80% de nos auditeurs qui nous suivent à ce moment, qui sont en train de donner leur point de vue. Si on devait faire le sondage aujourd'hui, je crois que nous devions avoir le courage de nous dire, monsieur le Premier ministre, le peuple désavoue votre manière de faire les choses. C'est parce qu'on n'a pas cette culture. Ou si ce n'est pas nous, le Premier ministre, lui-même devait dire, je sens que le peuple n'est pas content, ou peut-être je ne suis pas à la hauteur. Il y a lieu que nous puissions...
Cela impliquerait qu'il démissionne, parce que vous ne
pouvez pas le dire. Je vais y arriver. Nous ne voudrions pas qu'aujourd'hui nous puissions vivre ces ridicules, parce que nous avons vu une motion de défiance de notre gouvernement de la majorité. C'est l'une des raisons qui nous a amené aussi à conscientiser les collègues députés qui, avec moi, nous aurons demain, le moment venu, à rendre compte à la population. Aussi avec le président de la République, parce que nous sommes deux élus, Gustave Bindi Mono et Joseph Kabila. Et le mandat, il est nôtre. Le moment venu, et moi, peut-être maintenant, par exemple, vous imaginez, la semaine prochaine, je serai en vacances. Je n'irai avec aucun ministre, ni le gouvernement central, ni le gouvernement provincial, pour dire à la population de Pounia, de Luozi dans le Bas-Congo, ou je ne sais où, dans les Katanga et partout ailleurs, que voilà, on n'a pas pu arranger ce pont ou cette route, parce que, au niveau du gouvernement, là-bas, on n'a pas l'argent.
Mais c'est pourquoi François Nzekou vous a traité
non,
contre la population.
Il faut savoir quel est le rôle du député. Le rôle du député, c'est de légiférer et de contrôler. Voilà pourquoi nous, en tant que députés de la majorité, c'est nous qui menons le jeu politique. Nous avons dit 3 ans durant, nous avons passé le temps à applaudir même ce qui est médiocre. Nous devons aujourd'hui dire arrêtons, c'est une nouvelle année qui commence, regardons le sort du peuple pour que nous puissions cette fois-là et ne fût-ce que montrer à cette population qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Mais aujourd'hui, quand vous suivez, vous avez les réactions de la population. Le peuple est déçu de nous, députés, je suis conscient. Et nous aussi, parce que nous avons voulu accepter d'être les accompagnateurs de la médiocrité. Je suis conscient. Mais au moins, nous disons, chers amis, réveillons-nous pour que nous puissions ne fût-ce que sauver l'honneur de notre première législature. Nous ne sommes pas dénominés. J'ai été nominé pendant la transition. Mais à présent, je suis un élu. Un élu, c'est celui qui sait d'abord regarder quel est le sort de son peuple. Imaginez-vous, est-ce que vous savez que depuis que nous avons commencé cette législature, nous n'avions jamais pu arriver à faire appliquer les rapports de nos vacances parlementaires. Ça arrive aujourd'hui, dès qu'on les transmet, 48 heures après, c'est sur le marché, en train de vendre avec des cacahuètes. On emballe les cacahuètes avec ça. C'est pour vous dire que le souci du peuple congolais, ceux qui ont la gestion
de la majorité, mais vous n'êtes jamais arrivé à sanctionner le gouvernement.
S'il vous plaît, c'est par là où nous voudrions arriver. Parce qu'au sein de cette majorité, nous avons pensé qu'il nous devions créer ce courant qui devra amener notre majorité à nous sanctionner pour que nous puissions dire nous nous aimons. Là, ça
n'arrive-t-il pas tardivement ce courant?
Je ne pense pas. C'était le moment. Il a fallu d'abord faire bénéficier aux autres le doute. Ne fût-ce qu'un peu de doute. On doutait un peu, on s'est dit bon, est-ce qu'il y a lieu que nous puissions les laisser un peu, peut-être qu'ils vont améliorer. Mais le chef de l'État, il nous a flangué ça pendant le congrès. Il nous a rappelé qu'il nous avait une responsabilité de pouvoir contrôler ce gouvernement de notre majorité, qu'il ne l'aide pas parce qu'en réalité, il n'y avait rien de concret dans tout ce qu'il faisait. Qu'est-ce que nous devions faire à ce moment-là?
Patrick Mouyaya, vous avez suivi quelques réactions des auditeurs. J'ajoute celle de Christophe Lolé de l'Université de Kinshasa. Nous n'avons pas besoin des chiffres comme l'a présenté le Premier ministre, mais des faits réels qui améliorent les salaires du Congolais. Je voudrais savoir ce que propose le Premier ministre pour améliorer les salaires des Congolais, que le courant rénovateur ne se contente pas seulement à critiquer les actions du gouvernement, mais qu'il propose des pistes de solutions concrètes pour faire sortir le pays du gouffre.
En premier, le Premier ministre a utilisé l'image d'un médecin. Il faut faire le diagnostic.
Vous avez déjà dit
d'où vient le Congo? Où sommes-nous aujourd'hui? Voilà. Avant que je n'étais mon argumentaire, j'aimerais apporter une précision. Dans tout pays du monde, je pense que le pouvoir il est un, mais il est partagé en embranchement. Aujourd'hui, pour que le gouvernement fonctionne, arrive à mettre en œuvre ses réformes, c'est les parlements qui doivent adopter les lois. Et donc, il faut considérer que le bilan des uns est lié à celui des autres. J'en arrive, pour être un peu plus précis, pour dire qu'aujourd'hui, l'exercice auquel s'est livré les chefs du gouvernement, c'est de dire la vérité au peuple. Reprochez-vous au Premier ministre d'avoir dit la vérité au peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent le gouvernement Mouzito ou qui critiquent le président de la République peuvent apporter la preuve que le Congo est toujours en train d'être enfoncé? Plutôt que le Congo, aussi, il ne remarque pas que le Congo est en train d'avancer justement, bien qu'étant dans le trou. Et puis, une autre précision quand même, je pense que l'honorable Bindi Mono n'a pas fait une bonne lecture du discours du président de la République. Le président de la République, en faisant les discours sur l'état de la nation, a rêvé par exemple qu'à Goma, ça faisait des années qu'il n'y avait plus des bonnes années passées sans bruit de bottes. C'était le cas cette année. Il y a des progrès qui sont enregistrés. Aujourd'hui, les défis sont énormes. C'est pourquoi le président de la République a initié les réformes. l'amélioration des climats des affaires, ce sont des lois qu'il faut adopter, c'est des réformes qu'il faut faire à gauche à droite. Vous dites aujourd'hui l'impunité, et c'est bien bon, mais est-ce que l'État, dans sa forme actuelle, avec le fonds qu'il a, peut financer son pouvoir contre? Puisqu'aujourd'hui, pour avoir de bons policiers, des bons contrôleurs et tout le reste dans les régies financières, il faut non seulement qu'ils soient bien payés, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient en mesure de les contrôler.
Mais sans tomber dans la courbe. François Nzekouy a parlé de l'expansion, hein, est revenu sur l'expansion bancaire dont a parlé le Premier ministre, mais il a relevé un point. Combien de Congolais y a-t-il dans ce secteur?
C'est un signal. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas rentré dans la constitution de ces banques de manière générale pour savoir s'il n'y a pas des Congolais qui sont actionnaires ou pas. Je n'entrerai pas dans ces débats, mais ce sont des indicateurs. Aujourd'hui, c'est avéré, par exemple, pour ce qui concerne les entreprises publiques, que l'État a failli et qu'il faudrait faire intervenir les privés dans une forme de partenariat pour que ces entreprises répondent à leurs besoins de création d'emplois, rendent des services et produisent la richesse. C'est ce dont nous avons besoin pour étoffer les budgets de l'État, les budgets de l'État qui permettra de mieux payer les agents, d'améliorer les conditions sociales. Et aujourd'hui, vous voyez que les routes sont en train d'être réhabilitées, vous voyez que les hôpitaux sont en train d'être construits, leurs gestions sont en train d'être améliorées de manière progressive. C'est vrai que des effets d'action sont faits, mais qui sont insignifiant par rapport à l'immensité du malheur dans lequel, du trou dans lequel nous nous trouvons, et cela c'est la résultante depuis la naissance du Congo en 60 jusqu'à aujourd'hui.
François Nzekouy, n'y a-t-il pas eu, comme le dit Patrick Mouyaya, n'y a-t-il pas des signes qui présagent un certain relèvement?
Moi, je suis relativement pessimiste. Je suis d'accord, bien évidemment, que on ne peut pas dire que tout va mal, mais beaucoup de choses vont mal. Et les orientations que nous prenons ne sont pas nécessairement les bonnes. Aujourd'hui, quand je lis les perspectives du Premier ministre pour l'avenir, quand vous voyez tous les axes de perspectives qu'il a démontrés ici, vous vous rendez compte que tous les efforts sont basés vers l'extérieur. Patrick vient de nous dire ici qu'on va transformer l'entreprise étatique en entreprise privée. Qui sont les Congolais qui sont capables de reprendre une entreprise comme Onatra? On va les confier à des Occidentaux.
Non, c'est mieux les politiques.
C'est mal les politiques, bien évidemment, parce qu'ils se sont enrichis indûment, ils peuvent participer à ces entreprises. J'ai l'impression qu'on ne croit pas aux Congolais. C'est aussi un grand problème. Ou alors, il y a un type de Congolais qui a les richesses qu'on ne sait pas identifier. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, écoutez, voilà, M. Nzekouy participe au capital de Matra, mais avec quels moyens? Je vais le faire. Et d'autre part, on se rend compte que on continue à croire au mythe que le développement du Congo va toujours venir de l'extérieur. Avec cette histoire des contrats chinois, il faut bien s'endetter pour pouvoir faire quelque chose si on n'a pas les moyens. Mais on ne fournit pas d'efforts suffisants pour mobiliser les recettes internes au pays. On attend comme une manne les points d'achèvement qui pourra peut-être permettre de mobiliser chaque année 300 millions de dollars. Que l'on voudrait bien investir dans les secteurs trop pauvres. Mais encore une fois, ce que nous avons aujourd'hui, de quelle manière l'avons-nous investi dans le secteur trop pauvre? On nous dit, voilà, on construit des hôpitaux. Mais est-ce que vous trouvez normal que dans une ville comme Kinshasa, on construit un hôpital de plus, au moment où les hôpitaux existants ne sont même pas à mesure de donner les médicaments, n'ont pas des lits, il n'y a rien dans les hôpitaux, vous allez construire un hôpital de plus? Ce sont des affectations, à mon avis, qui ne sont pas judicieuses par notre gouvernement, et que moi j'estime que nous sommes en train de partir dans la mauvaise voie, parce qu'il n'y a même pas un programme de développement du pays. Les gouvernements fonctionnent à vue. Ils s'attendent, ils vont par ici, ils vont par là, et je me dis, ce n'est pas normal quand un pays fonctionne de cette manière. Quel est le programme du gouvernement que nous avons, à part l'idée lancée par les chefs d'État des 5 chantiers, qui est une idée qui n'a pas une planification dans le temps? On ne sait pas dans 6 mois, dans une année, qu'est-ce qui va être réellement réalisé face auxquelles la population peut juger l'action du gouvernement.
Merci François Nzekouy. Nous entrons pratiquement dans la dernière partie de cette émission qui concerne les conclusions du Savomba. 30 secondes conclusion.
30 secondes, et je crois que le peuple congolais, je vais seulement leur demander une seule chose. Dans les différentes interventions, ils ont dit qu'ils attendent qu'ils puissent nous sanctionner. Moi, je leur concède. Nous n'avons pas été à la hauteur, nous avons craché dans leurs mains. On a manqué la compassion pour leur restituer cette conscience par rapport à la manière dont ils nous ont élus avec les fers. Et qu'ils comprennent que notre action en tant que rénovateur, c'est pour
essayer de recadrer les choses et remettre les hommes politiques pour avoir le sens et pouvoir gérer
merci.
Le peuple.
Merci, Patrick Mouillet, à 30 secondes.
Sur l'impulsion de Joseph Kabila, le Congo est en train de changer. Nous avons réalisé un record cette année. Nous avons réussi à allier occidentaux et orientaux, chinois et les autres européens américains, avec nous le Congolais, pour commencer la marche vers la reconstruction de notre pays. Aujourd'hui, le Congolais peuvent espérer un des jours meilleurs.
François Nzekouye. Que les Congolais croient aux Congolais. Aucun étranger ne viendra développer le Congo. Faisons un effort, soutenons les autorités, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, dans la mobilisation des recettes pour qu'il y ait un Congo meilleur, mais aussi faisons un effort pour les faire pression pour qu'ils nous justifient régulièrement comment ils dépensent notre argent.
Fin de cette émission, merci à vous de nous avoir accordé votre attention et à nos invités d'y avoir participé. Guy Mati et Samuel Tachak l'ont préparé sous la coordination de Martin Sebujangwe, Sylvain Matundou l'a mise en onde sous la coordination technique de Patrick Kiasongwa, Alain Irung. Je vous les présente. Et bon suite au programme sur Radio Kapi.